Nous tournons tout de suite notre Bible au chapitre 2 de Daniel et je lis au verset 31. Toi, ô roi, voici, tu voyais, voici une grande statue. Cette statue était grande et sa splendeur extraordinaire. Elle se tint devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu vis jusqu'à ce qu'une pierre se détachât sans main, et elle frappa la statue dans ses pieds de fer et d'argile et les broya. Alors furent broyés ensemble le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de l'air d'été. Et le vent les emporta, il ne se trouva aucun lieu pour eux, et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. C'est là le songe, et nous en dirons l'interprétation, devant toi, ô roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois auquel le Dieu des cieux a donné le royaume, la puissance et la force et la gloire. Et partout où habitent les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux des cieux, il les a mis entre tes mains, et t'a fait dominer sur eux tous. Toi, tu es cette tête d'or. Et après toi, s'élèvera un autre royaume inférieur à toi, puis un troisième, et un autre royaume terrain qui dominera sur toute la terre. Et le quatrième royaume sera fort comme le fer, de même que le fer broie et écrase tout, et que le fer brise toutes ces choses, il broiera et brisera. Et selon que tu as vu, les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, le royaume sera divisé. Et il y aura en lui de la dureté du fer. Selon que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile grasse, et quant à ce que les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, le royaume sera en partie fort et sera en partie fragile. Et selon que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile grasse, ils se mêleront à la semence des hommes, mais ils n'adhéreront pas l'un à l'autre. De même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Et dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Plus loin, mais lui, il subsistera à toujours. Continue chapitre 4, verset 19. Voilà une deuxième vision de Nebuchadnezzar. Et Daniel va répondre et donner l'interprétation de la vision. Et Daniel, au verset 19, est stupéfait. Je fus stupéfié pour une heure environ et ses pensées le troublèrent. Voilà ce qu'il va annoncer à Nebuchadnezzar, verset 28. Tout cela arriva au roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, il se promenait sur le palais du royaume de Babylone. Et le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone, la grande que j'ai bâtie pour être la maison de mon royaume, par la puissance de ma main et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix tomba des cieux. « Roi Nebuchadnezzar, il t'est dit, le royaume s'en est allé d'avec toi et on te chassera du milieu des hommes, ta demeure sera avec les bêtes des champs. On te fera manger de l'herbe comme les bœufs et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu connaisses que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Puis il y a eu ce rétablissement, et fin du verset 37, Nebuchadnezzar peut dire « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je magnifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vérité et les voies jugement, et qui est puissant pour abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Voilà une confession de Nebuchadnezzar. Chapitre 5, une autre vision. Je lirai simplement au verset 17. Alors que tous les grands étaient réunis pour un festin, mais que les vases d'or avaient été tirés du temple de la maison de Dieu, verset 3. Alors un doigt avait écrit. Verset 5, en ce même moment, les doigts d'une main d'homme sortirent et écrivirent. Verset 6, alors le roi changea de couleur, ses pensées le troublèrent, les liens de ses reins se délièrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Verset 17, alors Daniel répondit et dit devant le roi, que tes présentes demeures et donne tes récompenses à un autre. Toutefois, je lirai l'Écriture au roi et je lui en ferai connaître l'interprétation. Ô roi, le Dieu très haut donna à Nebuchadnezzar, ton père, le royaume et la grandeur et l'honneur et la majesté. Et à cause de la grandeur qu'il lui donna, tous les peuples, les peuplades et les langues tremblaient devant lui et le craignaient. Il tuait qui il voulait. Il conservait la vie qui il voulait. Il exaltait qui il voulait. Il abaissait qui il voulait. Mais quand son cœur s'éleva, il fut précipité. Verset 21, et son cœur fut rendu semblable à celui des bêtes. Verset 22, toi, son fils Belshazzar, tu n'as pas humilié ton cœur, bien que tu aies su tout cela. Nebuchadnezzar ne savait pas, Belshazzar savait. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Et tu ne l'as pas glorifié, la fin du verset 23, et le Dieu en la main duquel est ton souffle, et à qui appartiennent toutes tes voies, tu ne l'as pas glorifié. Alors a été envoyé de sa part l'extrémité de sa main, et cette écriture a été tracée, et voici l'écriture qui a été tracée, Méné, Méné, Tekel, Upharsin, voici l'interprétation, Méné, Dieu a compté ton royaume, il y a mis fin, Tekel, tu as été pesé à la balance, et tu as été trouvé manquant de poids, Pérès, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Verset 30. Et cette nuit-là, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Nous arrêtons là la lecture de ces trois visions. Le temps est limité et bien sûr, nous ne pouvons pas aller rentrer dans beaucoup de détails, mais il y a des pensées qui sont importantes et que j'aimerais, avec le secours du Seigneur, dégager et rappeler à chacun de nous. Nous avons dit que Dieu se conserve et a toujours un témoin, des témoins dans ce monde. Alors, des témoins pour lui donner gloire, pour être des témoins pour lui, pour veiller à ce que le Dieu soit glorifié. Alors nous sommes dans ce temps des nations, c'est-à-dire que les nations ont le pouvoir, ceci a été dit tout à l'heure, et ce temps dure, il dure aujourd'hui. Il va durer jusqu'à ce que le royaume, ce royaume qui subsistera toujours, vienne, c'est-à-dire que le Seigneur règne. Entre-temps, Dieu s'est pris un peuple tiré des nations, nous-mêmes, l'Église, un peuple tiré des nations, d'Israël, puisqu'aussi le mur mitoyen de clôture a été détruit. L'Église est constituée de personnes de ces peuples. Et aujourd'hui, l'Église est sur la terre, et nous sommes face aux autorités, à un monde qui est dirigé par des personnes, des hommes, des rois, toutes sortes de personnes, des bons, des méchants, des cruels, des dictateurs, tout ceci ordonné de Dieu. Et c'est dans ce monde que nous avons à vivre. Alors bien sûr, les leçons que nous allons tirer de Daniel, nous allons voir comment aujourd'hui est ce monde, celui-là, tel qu'il est aujourd'hui. Nous verrons qu'il y a des différences avec celui de Daniel. Par contre, il y a des constantes. Les constantes, eh bien, on va les rappeler très très rapidement à travers les lectures que nous venons de faire. Mais avant de les rappeler, je voudrais dire qu'il y a quelque chose aussi que Dieu veut et que Dieu souhaite et maintient. Lorsque le peuple a été emmené en captivité, alors il y avait une partie du peuple qui était en captivité, là-bas à Babylone, puis il y avait une partie qui était restée. Jérémie était resté avec ce peuple. Donc une partie du peuple dans un mauvais état moral, un mauvais état, et qui entendait sans arrêt Jérémie annoncer ses jugements, était resté là-bas dans le pays. Il voyait les ruines, il voyait le temple écroulé, il voyait tout cela. Et puis il y avait Ézéchiel, par exemple. Ézéchiel avait été transporté, et il se trouvait avec le résidu et subissait les contraintes, tout ce que le vainqueur peut faire subir au vaincu. Et il était là au milieu de ce résidu. Et puis il y avait Daniel et ses amis dont nous avons parlé, qui lui étaient vraiment très près de ceux qui gouvernaient. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que Dieu, déjà, il a des témoins. Il a gardé des témoins là-bas en Israël, des témoins en milieu du résidu, et puis il avait des témoins aussi tout près de ceux qui gouvernaient. Autrement dit, si Dieu, et si l'objet de Dieu à cette époque, à l'époque de Daniel, c'était encore son peuple qui était plus son peuple, l'ami qu'il avait déshonoré, mais le peuple qu'il aimait et sur lequel il veillait, Dieu faisait en sorte et voulait que, à travers toutes ces prophéties d'Ézéchiel, de Daniel, eh bien, le peuple apprenne, considère, apprenne quelque chose. Et il voulait que Daniel, eh bien, le peuple, eh bien, il soit au courant de ce monde qui le dominait, ce monde qui maintenant avait le pouvoir. Je n'ai pas dit pris le pouvoir, avait reçu le pouvoir du Dieu Tout-Puissant. Et il fallait le connaître, ce monde dans lequel il fallait vivre, comment il fallait se comporter. Alors ça, c'est la première chose que nous retenions. Nous ne pouvons pas ignorer le monde dans lequel nous vivons. Nous ne sommes pas du monde, l'Église est étrangère, mais nous sommes dans ce monde. Alors comment aujourd'hui nous allons vivre dans ce monde? Qu'est-ce que nous allons apprendre? Qu'est-ce que nous allons voir? Et il nous faut bien le considérer. Alors retournons déjà les grands faits tirés des pensées et des visions. D'abord sur ces caractères qui se sont succédés à travers ces trois visions, les deux visions de Nebuchadnezzar et puis la vision de Belshazzar. D'abord, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est Daniel 2, avec ce désir d'établir une religion universelle. On voit cette statue d'or que le monde entier devait venir adorer. N'est-ce pas la pensée qu'il y a déjà dans l'homme d'avoir une pensée unique, a-t-on dit ? Aujourd'hui, ce n'est pas encore cette pensée unique, mais tout ça, ça vient, ça germe. Aujourd'hui, l'apôtre Paul disait aux Philippiens qu'il y a en vous cette même pensée. Bon, nous pouvons réciter le verset mieux que je ne pourrais le citer. Cette même pensée, celle qui a été aussi dans Christ Jésus. Voilà ce que le Seigneur aimerait. Il aimerait voir chez les siens déjà cette même pensée. Mais le jour où il y aura dans le monde une même pensée, alors tremblons, chers amis, ouvrons la parole, Apocalypse 17. Parce que ce jour viendra. Si aujourd'hui nous voyons tout en transparence, en filigrane, ce jour va arriver. Apocalypse 17, verset 13. Ceci ont une seule et même pensée, et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Voilà le moment terrible, le jour où les hommes auront une même pensée. Alors, bien sûr, ce moment, cet état, chers amis, ce n'est pas celui que nous connaîtrons, puisque, et il faut le rappeler toujours, nous ne serons plus là. Mais quelle pensée terrible, quels jugements vont s'abattre alors sur ce monde le jour où il y aura cette pensée unique, où les hommes auront donné leur pouvoir à la bête. En attendant, Les choses, elles avancent tout doucement, ça germe. On le voit, cette pensée unique, à travers aujourd'hui ce qu'on appelle la mondialisation, les communications qui ont complètement changé. On voit tout ceci qui se construit. Mais en même temps, c'est la confusion. N'oublions pas, on est dans un monde où il y a aussi la confusion, il y a les guerres. Et pourquoi? Eh bien, c'est ce que nous venons de lire. Cet empire romain qui a disparu au 5e siècle, qui va renaître lorsque l'Église sera enlevée, Daniel 7, Apocalypse 13, mais cet empire romain et les balbutiements sont là. Donc on retrouve déjà ces pensées qui vont arriver, mais en même temps il y a cette argile qui est mêlée avec le reste. Cette argile qui montre qu'il y a de la faiblesse. Comment faire une alliance entre quelque chose qui est de l'argile et du fer? Mais il n'y a rien qui tient. Et aujourd'hui, mais nous avons l'exemple dans ce que nous entendons. On parle de fracture sociale. Voilà l'exemple type de ce que nous dit la parole. Il y a cette lutte entre les pays riches, les pays pauvres, le sud, le nord, entre des personnes plus pauvres, des personnes plus riches, et on n'arrive pas à faire la synthèse. Et l'homme se débat, et le monde se débat, et n'arrive pas à trouver. Voilà, on a là le fer et l'argile. Alors un jour, mais ce n'est pas le jour que nous connaîtrons, chers amis, mais un jour, ça sera cet homme de fer, ce royaume de fer. Lisons Daniel 7 pour que tout ceci soit clair, aussi pour chacun de nous. Ou alors, ce n'est pas l'argile, mais nous verrons l'homme dans sa toute puissance, dans sa dictature qui va écraser. Lisons Daniel, je lis dans ses versets Daniel 7, donc c'est la suite, la partie prophétique qui reprend à partir de ce chapitre, c'est tout ce que je lirai là. Daniel 7, verset 7, et je vis la quatrième bête, la voilà, cette quatrième bête. Il y avait les quatre royaumes, et c'est celui-là qui renaît, effrayante et terrible, et extraordinairement puissante. Elle dévorait et écrasait. Moi, Daniel, je fus troublé dans mon esprit. Verset 19, la quatrième bête était extraordinairement terrible. Voilà, chers amis, ce qui attend aujourd'hui ce monde. Un pouvoir qui sera celui du fer. Les pauvres seront écrasés. Aujourd'hui, il y a cette lutte, cette fracture sociale que l'homme ne peut résoudre et ne peut pas résoudre. Alors c'est notre monde aujourd'hui, chers amis, qu'il nous faut savoir. Avec ses caractères, toujours la première vision de l'injustice et de la cruauté. Il tue qui il veut. Daniel 4 va nous parler de l'orgueil humain. Lorsque Nebuchadnezzar a été jugé et lorsqu'il s'était exalté. Donc l'orgueil qui va devant la ruine et l'esprit hautain devant la chute, nous dit Proverbe 16. Pas de dépendance de Dieu, une propre volonté, un oubli de Dieu. Et voilà comment on peut devenir comme une bête. Comme une bête. Plus de relation avec Dieu lui-même. Il y a un verset dans le Nouveau Testament qui... Peut-être je mets ceci à votre réflexion lorsqu'il nous est parlé de sagesse, parce que l'autre corollaire de ce que nous avons vu là, c'est que la sagesse de l'homme s'écroule. Il n'y a rien. Pas un homme a pu répondre. Pas un homme a été capable de répondre. Il a fallu Daniel avec cette sagesse divine pour répondre. Autrement dit, la sagesse humaine, la démonstration est faite. Il n'a pas pu. Un verset du Nouveau Testament, c'est dans l'Épître de Jacques, où, juste avant ce dernier paragraphe de Jacques 3, on a ce verset que nous aimons bien, mais qui est la sagesse d'en haut, qui est premièrement pure, ensuite paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde, de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. J'aimerais qu'on connaisse par cœur les caractères de cette sagesse d'en haut. Mais juste avant, il y a quelque chose qui nous trouble. C'est que, voilà, vous pouvez avoir un esprit de querelle dans vos cœurs, verset 14, or ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut, mais une sagesse terrestre, animale, diabolique. Alors, on pense à cet état de Nebuchadnezzar. Voilà un moment, et voilà, ce sont des choses, elles sont rappelées dans le Nouveau Testament, ou dans nos rapports, ou dans les rapports des hommes, ou dans les querelles que les hommes peuvent avoir, on peut manifester, nous pourrions manifester une sagesse terrestre, une sagesse animale, et une sagesse diabolique. Ce, c'est un sujet à creuser. Daniel 5, c'est la vision de Belshazzar. C'est les hommes qui sont réunis, un grand festin, le plaisir, on fait la fête. Alors ceci ne nous parle-t-il pas aussi de nos jours, de l'homme qui fait la fête? On s'étourdit, on va se glorifier de ses réalisations, on s'étourdit effectivement. Et à ce plaisir, on associe l'impiété et le blasphème. On utilise là les vases qui avaient été pris dans le temple. Impiété et blasphème. Lorsque l'homme s'étourdit, combien souvent le nom de Dieu est blasphémé. Mon cher ami, que nous ne soyons pas de ceux qui entendent ceci. Ceci voudrait dire que nous sommes beaucoup trop près. Jamais nous aurions dû être là. La reine n'était pas là, nous le verrons. Daniel n'était pas là non plus. Oh, que nous soyons gardés. Et nous savons combien c'est difficile, mais combien nous avons besoin d'être gardés pour ne pas entendre tous ces blasphèmes qui sont prononcés contre Dieu. Voilà l'impiété et le blasphème. Daniel 6, c'est le dernier paragraphe, celui où alors c'est Darius, et c'est avant que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions. Ou alors, les satrapes ou les gouverneurs ont voulu piéger Daniel. Comment piéger Daniel? Un homme, il était parfait, on n'a rien trouvé. Il était droit, il obéissait au roi. Que faire contre Daniel? Ah, mais Daniel, il s'agenouillait 3 fois le jour. Donc Daniel, et on va établir une loi, et on convainc le roi de faire cette loi, et de dire que celui qui s'agenouillera pendant un mois, qui ne s'agenouillera pas devant le roi, eh bien, sera jeté dans la fosse aux lions. On a souligné l'indifférence de Daniel, la fermeté de Daniel, qui n'a rien changé, qui est resté fidèle. Mais ceci, c'était le propos de tout à l'heure. Je veux insister sur ce spectacle, sur ce que le monde fait. Où nous voyons là, dans l'homme qui s'exalte, qui veut répondre, capable de répondre aux prières que ses sujets lui adressent, nous voyons aussi l'envie, la haine et la jalousie de ceux qui sont autour de lui, de ceux qui veulent piéger Daniel. Ah, il est beau ce tableau du monde, mais c'est celui-là, chers amis. C'est celui-là, c'est pas autre chose. Alors maintenant, allons un peu plus avant, parce qu'on ne peut pas rester là-dessus. Nous avons noté que dans toutes ces visions, et dans tout ce qui s'est passé, et dans toutes les réponses que Daniel a données, à chaque fois l'histoire s'est terminée par l'exaltation de Dieu. Chaque fois Daniel a fait en sorte que Dieu soit exalté, soit élevé. Donc c'est quelque chose qu'il nous faut retenir. Mais alors maintenant je voudrais que... Alors bien sûr, notre monde aujourd'hui est un peu différent de celui-là. Mais tout ce que nous avons lu tout à l'heure, tout ce que je viens de dire, demeure, parce que c'est dans le cœur de l'homme. Incurable. Les jalousies, la haine, celui qui va écraser, ça reste là. Mais alors aujourd'hui, et je pense à nos enfants, à nos jeunes gens, il y a dans le monde des pièges. Des pièges et qui sont sournois, insidieux. Et j'aurais aimé vous parler de 2 choses. Nous sommes aujourd'hui dans ce monde, la statue, ou en quelque sorte le royaume, il n'a pas encore été frappé par la pierre. Pierre, c'est le Seigneur lui-même qui va frapper un jour. Il n'est pas encore frappé, mais il est là. Et alors Dieu, aujourd'hui, il avertit le monde. Il l'avertit constamment. Nous avons tous en présence des avertissements solennels qui ont retenti, des catastrophes récentes, J'ai écrit trois choses là pour avoir la mémoire. Le tsunami dans 2004, le 11 septembre 2001, c'est aussi quelque chose d'un événement. Et à la fois Dieu avertit les hommes à travers cela, et les hommes n'entendent pas, et les hommes ne veulent pas croire, mais il nous parle à nous aussi. Je me rappelle qu'au moment du tsunami, cette vague qui est arrivée, oh, tout le monde déplorait, c'est sûr, c'est de nombreux morts, mais il y a eu des paroles qui sont élevées, les hommes qui ont dit, les scientifiques ont dit, oui, mais aujourd'hui on ne sait pas prévoir, mais demain on va savoir prévoir. Donc voilà l'homme qui se glorifie de sa sagesse. Il dit, mais je ne sais pas encore, c'est vrai, mais demain je saurai. C'est quelle erreur terrible. Et alors Dieu nous parle. Le 11 septembre 2001, pourquoi je le cite? Parce que c'est un peu plus personnel, mais il se trouvait que vous aviez notre calendrier de veuvés, et dessus il y avait une carte postale envoyée par notre fils qui était aux États-Unis, sur lequel il y avait les deux tours. Quand on a appris la nouvelle, et alors le verset du calendrier de veuvés ce jour-là, eh bien, je vais vous le lire parce que c'est Néhémie 4, à la fin du verset 14. Et cette parole m'a transpercé. Ne craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur qui est grand et terrible et combattez pour vos frères. À cette période, il se passait beaucoup de choses. Alors on pouvait avoir beaucoup de crainte face à cet événement. De la même façon, nous avons Ésaïe, nous pouvons trouver Ésaïe 8, verset 12. Ne craignez pas leur crainte. Aujourd'hui, dans ce monde, il y en a beaucoup de crainte et nous allons y venir. Mais cette fois-là, voilà, on a cru que le monde allait s'écrouler avec ce qui arrivait. Eh bien, la parole était là, ne les craignez pas. Il n'y avait rien d'autre, c'était le verset commencé comme cela. Et après, c'est exactement le verset 14. Souvenez-vous du Seigneur qui est grand et terrible, qui est au-dessus d'un événement comme celui-là et combattez pour vos frères. Sous-entendu, où est-ce qu'il est notre combat? Combattez pour vos frères. Souvenez-vous du Seigneur qui est grand et terrible. Voilà un avertissement que Dieu a donné en son jour. Et donc il nous faut écouter tout cela. Alors, il n'en demeure pas moins que si Dieu avertit, et Dieu avertit toujours avant d'agir. C'était vrai pour Nebuchadnezzar, c'est le vrai aujourd'hui. Dieu ne va pas juger, les hommes ne seront pas pris au dépourvu. Les avertissements, ils se multiplient. Mais il n'empêche qu'il y a des contraintes qui sont exercées sur le croyant fidèle, on l'a dit tout à l'heure. Et de quelle manière? Que ce soit à travers, on a évoqué cette pensée unique, que ce soit à travers dans le monde scientifique ou le monde social, nous allons venir à tout cela. Parce qu'il faut bien savoir une chose, et c'est peut-être une évidence, c'est que nous sommes dans ce monde et nous y vivons. Je vais dire un mot, nous y trafiquons. Nous avons notre compte en banque, nous sommes une compagnie d'assurance, nous vivons avec ce monde. Alors nous avons à faire attention dans toutes nos activités, de quelle manière ce que nous faisons n'est pas contre ce que Dieu nous demande. Hein ? Obéissez d'abord aux dieux plutôt qu'aux hommes. Mais tout ce que je viens de dire est tout à fait, je dirais, légitime. On travaille, il y a des professeurs qui reçoivent leur salaire. Nous vivons dans ce monde. Et ça veut dire que nous allons souffrir, chers amis, et porter les souffrances qui vont intervenir lorsque Dieu avertit. Lorsqu'il y a cette crise financière, c'est un autre avertissement de Dieu. L'homme qui pensait être sage, eh bien, n'était pas sage. Et il n'a pas été si sage que cela. C'est que le château de cartes, il s'écroule. Et il y a, et peut-être parmi nous, il y en a qui souffrent. Il y en a qui perdent leur travail, il y en a qui... Voilà, tout cela. Mais nous sommes dans ce monde. Donc il ne s'agit pas de dire et de lutter et d'aller, gardons-nous d'épouser un combat, quel qu'il soit. Non, sachons que nous sommes en dehors de ce monde, mais nous avons à faire face à cela et à savoir comment agir, comment être fidèle. Daniel nous a montré un chemin. Nous avons à le connaître et à le savoir. Et alors je vais prendre deux exemples. Deux exemples parce que je trouve qu'ils sont un peu symptomatiques de l'aspect, je dirais, insidieux, sournois, avec lequel aujourd'hui le monde agit. Ces deux exemples, en fait, ce sont les mets délicats. On l'a évoqué tout à l'heure. Les mets délicats, on peut... Hein, une belle démonstration scientifique. On apprécie un beau livre. Un beau livre qui fait appel à une belle écriture, qui des choses restent que dans des choses pures. On apprécie, on goûte. Et voilà les mets délicats, petit à petit. Une belle musique. Ça aussi, ça nous fait du bien. Mais attention, le monde sera toujours pour nous prendre, nous attirer. Et aujourd'hui, c'est avec tout cela qui peut attirer des mets délicats. Alors le sujet que je voudrais voir, c'est ce sujet, que deux sujets particuliers. C'est celui que j'appelle la tolérance. Et le deuxième, ça va être le développement durable. On en parle partout. Et c'est pourtant, réfléchissons bien. Il y avait un sondage, il y a quelques temps, peut-être quelques mois, un récent sondage lu dans le journal, et ce sondage disait, eh bien voilà, les deux valeurs qui viennent en tête chez les Français, c'est celle-ci, la famille et la tolérance. Alors on se dit, première réaction, mais c'est merveilleux, on commence à se réjouir. Puis alors on creuse un peu plus. Alors on voit que la famille, eh bien, c'est la famille sous toutes ses formes. Homme, femme, 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 homme, homme, c'est n'importe quoi. C'est ça qu'on appelle la famille aujourd'hui. Et c'est ça qui vient en tête. Ensuite, la tolérance. La tolérance, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette tolérance dont parle le monde ? C'est une, a priori, on aime cette valeur et on dit, mais après tout, oui, il faut que je sois tolérant. Et on va bien comprendre la parole, ce qu'elle dit et ce que le monde dit. Alors, lorsque le monde parle de tolérance, eh bien, c'est d'abord que ben, tout le monde, tout ce que vous dites doit être accepté. Ce que mon voisin dit, je dois l'accepter. Toute croyance doit être acceptée, toute culture, dans mesure où je ne dérange pas mon voisin. Voilà, tout cela, je dois pouvoir... voilà, c'est ça, vivre. Alors, ce qui est intolérable, c'est si jamais je dérange mon voisin, ou si je n'accepte pas toutes ces choses-là. En particulier, la vérité. Non, mais bon, c'est pas possible, la vérité est intolérable. La vérité est intolérable. C'est cela que ça veut dire. Lorsque le monde parle de tolérance, ça veut dire que bien c'est le bien et le mal, c'est tout mélangé, c'est que dans un pays, le bien, ça sera ça, le mal sera ça. Mais ça, ce n'est pas grave. C'est une différence de culture. Il faut savoir apprécier, il faut savoir respecter. Et voilà ce qui est insidieux, chers amis. Voilà où il nous faut faire attention, chers enfants, chers jeunes enfants. Ça n'a l'air de rien. Et on se dit, mais oui, mais alors d'accord, et puis on s'engagerait peut-être facilement. Soyons très, très prudents. Et nous allons venir. En fait, la tolérance, telle que l'homme en parle, c'est la tolérance qui nie la vérité. Il n'y a plus de vérité absolue. Ça va loin. Parce qu'il n'y a plus de conviction. Pour paraphraser, on dirait une phrase qu'on entend, « Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. » C'est cela, ce monde, faisons très attention. Alors, on peut se dire, mais ainsi petit à petit, toutes les valeurs vont disparaître, elles se mélangent entre elles. Mais alors qu'est-ce que c'est que toutes les vertus, le courage, l'obéissance, la fidélité? Ah ben, la fidélité, non, on fait un peu ce qu'on veut, ça ne dérange pas le voisin. Oui. Alors donc il n'y a plus de fidélité, l'obéissance, ben, on n'en parle pas, le courage et la lâcheté. Ah, ben, pourquoi le courage plutôt que la lâcheté? Il y en a qui raisonnent différemment. Et ainsi de suite. Voilà le monde tolérant d'aujourd'hui. Qu'est-ce que dit la parole? Parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse, c'est ce que le Seigneur dit. Alors d'abord, première chose, si nous cherchons dans la parole le mot tolérant, en tout cas dans notre version, on ne le trouve pas. Et je pense que c'est providentiel. C'est providentiel. Il aurait pu y être. Et peut-être qu'il l'est dans d'autres versions, mais ceci n'a pas d'importance, on va tout de suite comprendre. Il se trouve que le mot n'est pas là. Par contre, l'opposition est totale, car ce que nous dit d'abord ta parole est la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà la parole la plus intolérable pour l'homme. La plus intolérable. C'est pas possible. Comment? Mais vous allez voir, parce qu'il nous faut réfléchir à cela. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, si nous disons ta parole, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais le monde n'accepte pas. Le monde va réagir. Alors notre Seigneur, eh bien, c'est la même chose pour le péché. Le péché, tous ont péché. Ils n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Quelqu'un a écrit avec le péché, tolérance zéro. C'est vrai. C'est exactement la pensée divine. Péché, tolérance zéro. Mais la tolérance zéro de notre Dieu est balancée par son amour infini. Son amour infini. Et nous allons voir. Alors, faisons bien attention. N'abandonnons pas. Réalisons bien que si nous avançons, si nous mettons le petit doigt dans ces pensées humaines, nous allons perdre nos convictions, perdre ce qui fait notre force. Mais pour nous, quel bonheur que le Seigneur nous ait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais quelle paix pour mon cœur. Quelle assurance, chers amis, pour nous. Quel drame pour ceux qui n'ont pas ça, qui ne peuvent pas dire, qui ne peuvent pas l'entendre, qui ne peuvent pas s'appuyer là-dessus. Mais c'est un drame terrible. Ils hésitent, ils ont peur. Et alors on voit pourquoi ils vont être angoissés, ces hommes. On va en parler tout à l'heure. Donc, tenons ferme. Ne perdons pas nos convictions. Hein, il a arrêté dans son cœur, Daniel. Ça veut dire quelque chose. Le chapitre 9 que tout à l'heure a lu Jean au début, on n'a pas lu ce verset. Le jour où tu as commencé à appliquer ton cœur, tes paroles ont été entendues, homme bien-aimé. Et le jour où il a appliqué son cœur, Daniel, comme Esdras, continuellement, jour après jour. Voilà ce qu'il nous faut. Des cœurs qui sont appliqués, des cœurs dans lesquels nous avons arrêté de ne pas nous souiller, mais de vivre, garder de ce monde. Donc, ne perdons pas nos convictions. On pourrait passer à côté, parce que qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça a l'air de rien, mais on se dit, oh, après tout, là, on entend ça, mais il y a peut-être d'autres choses, hein, on pourrait regarder à côté de la parole. Et puis, bon, il y a peut-être d'autres fondements que Jésus-Christ. Et voilà les portes qui sont ouvertes. Et on va glisser quelque chose. Et on va se mettre à chercher. Nous-mêmes, chers amis, on va se mettre à chercher. Et là, je ne l'ai pas encore parlé, mais on a Internet et on a tout ce qu'il nous faut. Et on va se mettre à fouiller. Et on fait dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Et on tord la parole. Et on la tort. Et ça, c'est le piège que le diable a dressé. Alors, chers amis, tenons ferme. Gardons droit. Découpons cette parole droit. Ne cherchons pas autre chose. Et restons bien fermes sur ce que cette parole dit, et que nous connaissons et qui nous a été rappelée et enseignée, et tenons-le bien, chers amis. Mais encore un mot. Si, encore un mot, je ne peux pas passer là-dessus. Mais m'excusez, là, les paroles, elles sont fabouillantes. Il faut que j'en parle. Le résultat, c'est quoi? On a parlé du plaisir, on a parlé du mélange, de la tolérance, de l'infidélité, mais c'est quoi? Et on voit là quelque chose qui va retentir sur nos couples, sur nos vies. Aujourd'hui, dans le monde, on n'aime plus la souffrance. On ne veut pas souffrir. Il faut tout, mais éviter la souffrance. Alors ça veut dire quoi dans un couple? Et dans tout couple, il y a des moments d'épreuve, de souffrance. Il y a des moments difficiles. Et alors aujourd'hui, dans le monde, avec cette philosophie, entre guillemets, eh bien, on dit, ah, mais pas de problème, écoute, on élude, on s'en va. Je m'en vais, on reste amis. Et voilà, c'est ainsi que les couples se défont. Et dans le monde, c'est par, je ne connais pas le pourcentage, mais inutile d'en parler. Mais chez nous, chers amis, c'est la même chose. Ça rentre insidieusement. On ne veut pas souffrir alors que quand l'épreuve est là, le Seigneur ne demande qu'une chose, c'est traverser l'épreuve ensemble avec moi. Et on en sort fortifié, et on en sort plus fort. Nous ne disons pas qu'on ne se dispute pas, si, il nous arrive tous, on a tous nos moments de faiblesse, mais traversons ensemble ces épreuves. N'abandonnons pas cela. C'est très important. Et c'est de cet abandon, c'est de toute cette philosophie qui vient, qu'arrivent après ces malheurs que nous constatons. Dieu a dit, je hais la répudiation. C'est clair, c'est catégorique, c'est trois mots. C'est dans Malachie. C'est clair. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, c'est clair. N'allons pas chercher, il n'y a pas de parole à découper, je n'ai pas de clic à faire sur Internet pour trouver autre chose. C'est tout simple. Inclinons-nous devant cette parole. Je continue. Alors si maintenant on pourrait se dire, mais quand même la tolérance, mais notre Seigneur, mais bien sûr, chers amis, mais notre Seigneur, il nous a demandé, et ce que demande le Seigneur est infiniment supérieur à la tolérance dont parlent les hommes. Le fruit de l'esprit que nous avons en Galates 6, et bien voilà, ce fruit de l'esprit, c'est déjà l'illustration de cette tolérance que nous devons manifester. Et puis on peut en passer, mais j'ai cité quelque chose là, plusieurs. Romains 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Hein, c'est les hommes, hein, c'est les autres, hein, c'est pas mes frères, c'est les hommes. Alors bien sûr, avec mes frères, je devrais être encore plus. Mais pensons à ça. Vous supportant l'un l'autre, vous pardonnant, faisant du bien à tous, Galates 6. Et puis, 1 Pierre 2, verset 15. Car c'est ici la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens. Et vous le faites comme libre, libre. Il n'y a pas une contrainte, nous sommes libres. Et non comme ayant la liberté pour voile de la méchanceté. Nous le faisons parce que nous sommes convaincus. Et nous le faisons comme étant libres. Et puis, mais nous le faisons comme esclaves de Dieu. Honorez tous les hommes. Quel est l'homme qu'il ne faut pas honorer? La parole me dit honorez tous les hommes. La parole me dit aimez tous les frères. Elle me dit craignez Dieu. Elle me dit honorez le roi. Mais ce que le Seigneur nous demande est bien au-dessus de ce que le monde pourrait proposer à travers sa philosophie. Autrement dit, cette tolérance que je vais appeler humaine, celle que nous entendons, que nous voyons dans les journaux, c'est un Dieu. Un Dieu, et je me rappelle, et nous allons citer, parce que c'est un des plus beaux versets également du livre de Daniel, et je trouve qu'il nous faut le lire, il nous faut le citer. Parce qu'il illustre d'une manière magnifique également cette dépendance, cette confiance de Daniel Il s'agit de ses trois amis lorsqu'ils étaient dans la fournaise. Alors, voilà, il y avait un dernier appel de Nebuchadnezzar, mais renoncer. Et la réponse, elle retentit, verset 18. Et sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Alors, chers amis, je veux qu'on retienne ceci. Sinon, sache, ce monde, le chef de ce monde, Satan, que nous n'adorerons pas tes dieux. La tolérance, que sais-je, tout ce que nous avons pu dire, on pourrait mettre des noms. Enfants, gardez-vous des idoles. On pourrait faire une liste complète de ces dieux qu'aujourd'hui le monde nous propose et qu'il ne faut pas adorer. Faisons attention, Internet. C'est un outil qui est là et vous voyez bien que nous ne pouvons pas nous en passer. Attention, n'adorons pas ces dieux. N'adorons pas ces dieux. Ça veut dire quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la grande difficulté de nous tous, de nos enfants, de nos petits-enfants, et nous tremblons quand on pense à nos petits-enfants, c'est de savoir aujourd'hui dans ce monde où tout est blanc et noir, ça c'est plus le loup dévorant, c'est plus Satan le loup dévorant, mais c'est celui qui se déguise en ange de lumière, qui vient insidieusement et qui nous dit telle ou telle chose. Alors, chers amis, faites bien attention. Soyons fermes, convaincus plus que jamais. Nous avons besoin de ces convictions. Quelqu'un disait, en pensant à ce verset du jour du Seigneur, qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », et de l'assurance que nous avons, mais dit mais un Seigneur comme ça, je ne le veux pas à moitié, mais je le veux tout entier. » De temps en temps, on pourrait partir, mais non, mais un Seigneur comme ça, qui me donne la paix, l'assurance, la certitude. Je sais pourquoi je vis, je sais pourquoi je suis dans ce monde, je sais où je vais, nous avons... Mais je le veux tout entier, je ne le veux pas à moitié. Alors, chers amis, c'est là, et ça va être ma conclusion, c'est là où il faut que nous nous arrêtons beaucoup. Je veux dire un mot avant de terminer justement cette conclusion. On n'a fait bien que survoler, c'est un sujet qui pourrait demander beaucoup, beaucoup de temps. Un mot sur le développement durable. Le développement durable, d'abord, c'est un mot qui est apparu. Le mot durable existe en français, mais en fait, l'expression veut dire autre chose que sa première signification. En fait, pour ceux qui ont travaillé sur ces sujets, ce mot durable est la traduction d'un mot anglais qui a été créé à l'époque, lorsque tous les peuples, et en particulier les pays du nord de l'Europe, qui ont été les premiers à penser à ces choses, ont créé ce nom, ce substantif, que nous n'avons pu traduire en France que par le mot durable. C'est un substantif qui veut dire que lorsqu'on a un projet, un développement, une action, eh bien cette action, on doit y associer à la fois l'aspect économique, mais l'aspect social, et également l'aspect environnemental. Il n'y a pas de projet digne de ce nom s'il n'intègre pas ces trois sujets. Et il y en a d'autres qui ont fait une autre définition, ça a fleuri, mais une que j'aime beaucoup, c'est que est un projet qui n'obère pas les générations futures. On pourrait se dire, voilà, je fais quelque chose qui est raisonnable au point de vue financier, point de vue social, je n'écrase pas mon frère. Et au point de vue environnemental, je respecte. Et puis, peut-être en oubliant les générations qui viennent. Donc nous voyons bien que l'homme, là, a réfléchi beaucoup. Et c'est une pensée qui, en elle-même, quoi dire, elle va bien dans le bon sens. Mais elle traduit d'abord l'angoisse des hommes. L'angoisse des hommes qui disent « le changement climatique, dans 40 ans, c'est fini, il n'y a plus rien, c'est plus possible ». Alors arrêtons tout de suite et lisons d'abord ce que nous avons, donc une véritable angoisse, une inquiétude. Quel est l'avenir de notre planète? Qu'avons-nous fait? Changement de climat, il n'y en a plus que pour 40 ans. Alors, je voudrais lire ce verset que je ne retrouve pas. Donc, avant, ceci reviendra, nous allons lire dans Romains 8 cette expression. Verset 19. Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Car la création a été assujettie à la vanité, non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujettie. Dans l'espérance de la création elle-même, elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour jouir de la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que toute la création ensemble soupire et est en travail jusqu'à maintenant. Imaginez ce passage de l'apôtre Paul qui dit que la création soupire, que toute la création soupire. Tous ceux qui œuvrent de Dieu n'ont pas droit à la parole, en fait. Les bêtes, les plantes, les arbres, la nature, tout ce que Dieu a créé, qui ne parle pas. Et voilà, mais elles soupirent. Elles soupirent des excès de l'homme, de la perversion de l'action humaine. Qu'avait dit Dieu à Adam, à Éden? Voilà le jardin pour le cultiver et le garder. Et le garder. Ça veut tout dire. Ensuite, on a cet exemple de l'Exode 23, où il est dit qu'il faut laisser en jachère la terre une année sur sept. Je pense que nos amis cultivateurs ici sont bien au courant. Il faut laisser reposer la terre. Il faut laisser reposer. Il faut, on y pense. Il faut planter. On coupe des arbres, mais il faut renouveler. Voilà plein de choses qu'aujourd'hui l'homme a oubliées. Nous le savons. Et alors là, nous devrions être, chers amis, nous devrions être des modèles. Nous savons tout ça. Nous savons tout ça. Nous devrions être des modèles. Je le dis parce que c'est peut-être pas vrai toujours, mais vous savez, je suis triste quand je vois un de mes petits-enfants qui jette un papier par la fenêtre de la voiture. C'est tout simple. Nous devrions être des modèles. Des modèles dans l'entretien de cette planète. Non pas que nous ayons une angoisse. Aucune. Le verset que je cherchais et qu'on retrouvera certainement, c'est ce verset où Dieu rappelle que voilà, il y aura des hivers, il y a des saisons, il y a des hivers, des étés, et que les temps sont là, et ceci va... C'était un autre passage auquel je pensais, mais on va lire celui-là. Tu me le dis ? Désormais, tant que seront les jours de la terre, les semailles, la moisson et le froid et le chaud, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. C'est tout à fait cela. J'avais pensé à un autre verset, mais celui-là répond encore mieux à ce que je voulais dire. Et il y en a d'autres. Tant que ceci durera. Aujourd'hui, les hommes sont angoissés et disent qu'il n'y en a plus que pour 40 ans. Ça ne veut pas dire que nous avons à gaspiller. Au contraire, nous devons être ceux qui ne gaspillent pas. Ceux qui gèrent, ceux qui gardent, ceux qui font exactement comme la parole nous l'a dit depuis le début. Et c'est pour cela, chers amis, que je cite ça, parce que aujourd'hui, on a à la fois cette angoisse de l'homme. Et alors, on peut être emporté par cette frénésie, on va l'appeler le dieu écologie. C'est-à-dire que l'homme va... On voit toute l'organisation qu'il peut y avoir derrière. Alors, nous n'avons pas, je ne pense pas que nous ayons... Alors, bien sûr, c'est la responsabilité de chacun, mais nous n'avons pas à combattre ces combats. Ce ne sont pas les nôtres. Nous avons à être des modèles. Nous avons à montrer. Et je veux terminer sur ceci, parce que quand on a vu ceci, quand on a vu cela, et quand on a parlé de ce monde, eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est extrêmement difficile d'être un témoin. Lorsque je vais dire, lorsque nous allons dire à quelqu'un, mais voilà, tu sais, je connais la vérité, je connais la parole de Dieu, voilà ce livre. Puis je connais là-dedans, on me parle de mon sauveur. Et mon sauveur, il m'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et aujourd'hui, moi, je marche, je vais vers mon sauveur. Il va venir bientôt. Voilà tout le message qu'on va dire. Alors, quelle réception va faire ce monde de ce message? Alors, ce n'est pas en notre pouvoir. Et c'est là où nous pouvons bien confier les choses dans les mains de notre Seigneur. Mais ça ne fait rien. Je voudrais évoquer une pensée, chers amis. Une pensée parce qu'elle me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Donc, je termine en concluant. Donc, soyons d'abord assurés que notre Seigneur y tient toutes choses en sa main. Toutes choses subsistent par lui. Nous n'avons pas à craindre les craintes des hommes. Ésaïe 8, verset 12. Les hommes aujourd'hui vont dire paix et sûreté. Qu'arrivera-t-il à 1 Thessaloniciens 5 ? Et puis la subite destruction va venir. Aujourd'hui, soyons fermes. Notre richesse, ce sont nos convictions. Notre liberté, là je cite quelqu'un qui a écrit ça, je trouve cette phrase belle. Notre richesse, ce sont nos convictions et notre liberté, c'est de les mettre en pratique avec la force que Dieu donne. Notre richesse, ce sont nos convictions. Alors soyons fermes. Et alors pourquoi j'ai dit, rappelons-nous cette phrase de Daniel, j'en ai pas assez parlé finalement, c'est le sinon. Sinon, sache, roi, nous ne servirons pas à tes dieux. Mais pourquoi? Pourquoi les trois amis de Daniel, la Shadrach, Meshach et Abednego, ont dit sinon? Ils allaient être jetés dans la fournaise. Eh bien, ils étaient là, face à cela, ils disaient, mais j'ai telle confiance en mon Dieu. Et puis, si mon Dieu avait une autre pensée, eh bien, sache, sinon, que nous n'adorerons pas ta statue ni tes dieux. Sinon, voilà l'état d'esprit d'un croyant fidèle. Il fait taire son âme, pour prendre un exemple d'un psaume. Faire taire son âme. Oh, on aimerait bien, on réagirait, voilà un moment. Mais là, on est au summum de la fidélité, de celui qui est là, qui est fidèle jusqu'à la mort. C'est facile d'en parler pour nous, reconnaissons-le. Mais voilà, sinon, il n'y a rien seulement, sinon sache. Autrement dit, quoi que tu fasses, quoi que les hommes fassent, la confiance de ses fidèles est inaltérable, inébranlable. Alors je reviens quand même à ce sujet de comment puis-je rendre témoignage dans ce monde. Alors nous serons gardés de l'heure de l'épreuve. Nous n'allons pas connaître tous ces jugements qui vont arriver. Mais jusqu'au jour où les cieux seront pliés comme un vêtement, nous dit la parole, des cieux et de la terre qui sont réservés pour le feu. Voilà. Mais tant que ce moment n'est pas arrivé, eh bien la terre, elle est toujours, et nous avons toujours ce que nous venons de lire en Genèse 8. Mais alors, que faire? Alors, nous avons lu 1 Pierre 2, verset 15, « Faisant le bien ». Si nous lisons le paragraphe en dessous, nous voyons bien qu'il nous est parlé de notre Seigneur qui recevait outrage sur outrage, et nous sommes invités à suivre ses traces. Et puis il nous est dit aussi juste avant, souffrant injustement. Aujourd'hui, nous pouvons être amenés à souffrir injustement. Faisant le bien, souffrant injustement, et puis on suit notre modèle. Alors comment puis-je faire passer ce message? Comment vais-je parler à mes voisins, à ceux qui marchent avec moi? Je termine sur ce sujet, chers amis, parce qu'il est important. Alors bien sûr, on me dit, mais avec raison, et c'est mon Seigneur, il faut que je suive mon Seigneur. Il faut que je sois tout près de mon Seigneur. Il faut que je vois comment il a parlé, lui, comment il a fait. Je suive son image, je ne quitte pas des yeux. Comment faire partager aux autres ce que je vis, ce que nous vivons? Il faut le faire par des exemples, par des paroles. Et dans la conviction, et j'insiste beaucoup là-dessus, que seul Dieu, non pas moi, non pas nous, pourront convaincre chacun. Lisons 2 Timothée chapitre 2, Verset 25. Enseignant avec douceur les opposants. C'est Paul qui dit ça à son enfant Timothée. Hein. Attendant si Dieu peut-être, ne leur donnera pas la repentance pour reconnaître la vérité, et s'ils ne se réveilleront pas du piège du diable par qui ils ont été pris pour faire sa volonté. Alors voilà, chers amis, voilà ce que nous avons à faire. Nous avons, c'est magnifiquement illustré, enseignant avec douceur les opposants. Et je vais revenir sur ce mot. Attendant si Dieu peut-être ne leur donnera pas. Donc ce que nous allons dire et faire, c'est avec prière. Remettant telle âme que nous voyons, pour que face à cette chose terrible, tellement intolérable aux yeux du monde, que Dieu puisse les traverser, les transpercer. Mais ce n'est pas moi qui le ferai. Et alors là, je voudrais pas donner un petit avertissement. Un petit avertissement à nous tous. Nous tous, chers amis. Pourquoi ? Parce que les chrétiens, nous-mêmes, souvent nous pouvons nous tromper. Nous pouvons nous croire supérieurs quant à notre foi. J'ai la vérité. J'ai la vérité, j'ai Christ. Attention, chers amis, à ne pas tenir ce langage. Tenir ce langage voudrait dire c'est comme si je possède la vérité. C'est comme si je possède Christ. Je ne possède pas Christ. C'est Christ qui me possède. Christ, j'appartiens à Christ. Ce n'est pas Christ, ne faisons pas comme ceux de l'apôtre. Paul le disait aux Corinthiens, il y en a qui disent qu'ils sont de Christ. Quelle erreur. Il y avait ceux d'Apollos, etc., puis ceux de Christ. Non. Ne nous réclamons pas, nous, Christ ne nous appartient pas. C'est nous qui lui appartenons. Et je crois que, je le redis encore une fois, de temps en temps, nous aimerions plus entendre parler du principe d'appartenance auquel le principe de séparation est subordonné. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque Christ m'a acheté, il nous a acheté à prix. Nous sommes à lui, voilà le fait. Alors réalisons que nous lui appartenons. Réalisons que nous sommes à lui, que nous sommes chers pour lui. Et alors viendra, et que... Si nous sommes fidèles, si nous l'aimons quelque peu, ce Sauveur, eh bien alors découlera une attitude droite, vraie, pure, reniant, rejetant le mal, tout ce qui ne plaît pas à notre Seigneur. Donc mettons bien ça. Donc faisons bien attention, et cela dans notre prédication, nos paroles, de ne pas nous montrer hautains. Supérieur quant à notre foi. Nous ne sommes rien. Disparaissons, je reprends encore l'exemple, la parole de Jean, disparaissons derrière notre Seigneur. Laissons-le agir. Parlons doucement à ses opposants. Laissons la parole, attendant si Dieu peut être, et Dieu va opérer. Donc en disant que la vérité ne nous appartient pas, sinon que nous l'avons reçue, ta parole est la vérité, et Christ est la vérité, que Christ non plus. Et par contre, ne soyons pas, ne nous comportons pas comme une garde rapprochée du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire ? On voudrait peut-être être ces héros qui vont défendre. Comme s'ils avaient la vérité, s'ils la possédaient, comme si c'était la leur, comme si Christ était leur Christ. Et on va se conduire comme cette garde rapprochée. Eh bien, le Seigneur n'en veut pas. Il n'en veut pas. Lorsqu'il était sur la terre, il n'avait rien demandé à son Père, lorsqu'il aurait pu avoir une garde. Rien. Non, mais le Seigneur, que veut-il ? Il veut des esclaves. Moi, je crois que c'est ça qu'il nous faut retenir. Il nous veut des esclaves auxquels il va dire un jour, c'est bien, bonne et fidèle esclave, entre dans la joie de ton maître. Pensons à cette dernière phrase, on la lit trop vite. Entre dans la joie de ton maître.